bonjour. Donc, nous sommes bien sur Fréquence Mistral et on retrouve, comme chaque mois, notre émission Les Livres ont la Parole. Et donc, aujourd'hui, on va recevoir Marie-Pierre Aiello qui vient nous présenter un livre qui vient d'assez loin, puisqu'il s'agit d'un livre qui parle de la Nouvelle-Calédonie et qui s'appelle Les Chants Kanaks du Papayé. Alors, on aura le droit de la musique parce que c'est un livre disque et qui est destiné en particulier aux enfants. Donc bonjour Marie-Pierre.
Bonjour.
Voilà. Bonjour Odile, hein. Merci de nous recevoir.
Bonjour.
Et donc avant de parler de ce livre disque, on va peut-être se mettre dans l'ambiance en écoutant un petit morceau de musique de là-bas, donc de Nouvelle-Calédonie. Voilà, musique de la terre qui tremble. Donc voilà, donc après cette ambiance, on est maintenant, on se retrouve en pleine Nouvelle-Calédonie. Alors ce livre, Les Chants Kanaks du Papayé, son histoire, Marie-Pierre, ça vient d'où? Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous qui vivez à Sisteron? Qu'est-ce qui vous est arrivé de vous intéresser à la Nouvelle-Calédonie et à cette histoire?
C'est une longue histoire, c'est une histoire qu'on m'a ramenée de là-bas. En fait, mon compagnon, qui est ingénieur du son, est allé faire plusieurs films en Nouvelle-Calédonie, dont les deux premiers. Quand il est revenu, il est resté un certain temps là-bas, et quand il est revenu, il m'a ramené plein de choses dans la tête, et plein de récits, de la musique, des sons, et des odeurs, et ça m'a transporté là-bas, et c'est une histoire qui m'a passionnée. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie et des Kanaks et tout ça, c'est une histoire touchante et passionnante. Et comme cela m'arrive souvent, j'ai décidé de l'écrire pour une de mes petites filles. Parce qu'en général, quand j'écris, je dessine, je m'adresse toujours à un enfant. Et j'ai la chance d'avoir trois petites filles qui s'étagent dans le temps. Donc il y en a toujours au moins une qui reçoit mes livres. Et là, j'ai écrit cette histoire-là. Et puis, le temps a passé, c'est long, compliqué l'édition et tout ça, et voilà ce livre qui arrive.
Un livre qui naît. Cette histoire, votre compagnon vous a ramené à la fois du son, de la musique, hein, comme on vient un petit peu d'en entendre. Aussi, c'était déjà une histoire existante, c'est une légende, ou c'est quelque chose que vous avez complètement inventé à partir de ce qui vous a ramené comme bruit, comme récit?
C'est un mélange, en fait. C'est une adaptation dans la vie d'une petite fille de la légende de la fondation Kanak, de l'arrivée du peuple Kanak sur des peuples, puisqu'ils sont multiples, Kanak sur Terre et sur l'île de Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est l'histoire fondatrice, c'est la lune qui a perdu sa dent, et de cette dent, il est né à la fois des êtres qui sont allés nager dans l'eau et des êtres qui sont restés sur terre. Et de là est né le peuple Kanak. Voilà. Donc j'ai mélangé les deux. Je l'ai adapté à une petite fille qui s'appelle Farah, qui est un prénom Kanak, et qui est une petite fille qui a une mal aux dents, comme souvent quand on est petit, quand
on perd
ses dents. Et voilà. Et du coup, ça lui a permis. Par la démarche de la rencontre avec sa grand-mère et avec les esprits qui habitent la terre de Kanaki, elle a rencontré à la fois la légende fondatrice et puis elle a accepté aussi peut-être de grandir.
Oui, de perdre ses dents et de grandir. Donc, alors, il y a plusieurs choses. Donc, il y a effectivement ce travail de l'histoire que vous avez réécrite à partir de la légende du peuple kanak, mais aussi vous avez fait tout ce qui est les dessins, l'illustration. Et bon, donc c'est absolument magnifique et joli. Et en plus, j'ai eu le droit de voir les originaux. Donc, avec il y a de la matière, vous avez utilisé de la matière, du tissu. A priori, vous êtes plutôt quelqu'un qui écrit ou quelqu'un qui est illustratrice ?
A priori, je suis plutôt peintre, oui, en fait.
D'accord.
En fait, je peins, mais je raconte aussi des histoires parce que j'aime ça. Et
parce que vous avez des enfants.
J'ai des petits-enfants, et voilà, des enfants d'abord, et ensuite des petits-enfants. Et puis j'aime beaucoup la littérature, et j'aime la transmission par les mots aussi, c'est important. Et à la fois par les mots, par le dessin, parce que le dessin canalise aussi l'histoire qu'on raconte. Et c'est vrai qu'en dessinant, je me raconte mes propres histoires. Voilà. Et j'aime beaucoup travailler avec des supports multiples. Bon, là, il y a beaucoup de collages. La robe de la petite fille, c'est du tissu. Il y a le petit garçon qui s'appelle Théan Kanaké, qui est lui, c'est vraiment le personnage central de la Légion, de la fondation des Kanaks. Celui qui va l'amener à traverser tout le chemin pour qu'elle puisse se retrouver, en fait. Lui, sur l'image de la page de garde, il porte un bouquet de racines, et oui, c'est des racines qui viennent de là-bas. Donc j'ai fait un mélange avec aussi des feuilles, beaucoup de collages, voilà, c'est multiple.
Oui, c'est très beau. Alors justement, dessiner, donc vous êtes peintre, mais avoir, je dirais, dans les yeux les couleurs de là-bas, les images, etc. Bon, je veux dire, vous avez travaillé quand même pour... vous n'êtes pas parti, vous n'avez pas dessiné à partir de rien.
Non, je me suis beaucoup documentée. Bon, d'abord, il y a eu à la fois les photographies que Jean-François, mon compagnon, a ramené là-bas, plus les trois films, puisque finalement, au bout du compte, il y a eu trois documentaires. Et ça m'a imprégné, j'ai lu un... Ils sont partis au début avec un ethnologue qui s'appelle Alban Bensa, qui est un grand spécialiste de la Kanaki. J'ai lu, je me suis immergée dedans, j'ai fait un voyage dans ma tête pour me...
D'accord, dans votre tête, vous n'êtes jamais allé là-bas.
Non, jamais.
Oui, non, mais c'est pas forcément toujours nécessaire, on peut accumuler des images visuelles à distance aussi.
Oui. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu toutes ces bases-là et après mon imaginaire a fait le reste.
Alors ça vous a pris combien de temps pour ça, justement ce travail de documentation ? En combien de temps on écrit l'histoire peut venir vite, mais après le travail de dessin, vous avez une idée du temps que ça vous a pris pour réaliser ce...
J'aurais un peu du mal à dire combien de temps, parce que ça a été en plusieurs temps. Il y a eu le brouillon, en fait, qui est un peu jailli comme ça très rapidement. Je pense, j'irai un petit mois où les choses se sont mises en place. Et ça, c'est le premier livre que j'ai fait et que j'ai offert à ma première petite fille. Et puis après, pour l'édition, j'ai repris le travail. Et là, ça a été plus long. Je pense, ça doit compter, je sais pas, dans les... Je ne sais pas, je ne suis pas très bonne avec le
D'accord,
temps.
D'accord, non. Donc, il y a eu d'abord un premier exemplaire unique pour votre petite fille, qui lui était destiné, qui était comme ça. Et puis, après, vous avez retravaillé dans le projet de le faire éditer. Et c'est venu comment ? Alors, ça vous est tombé dessus, le fait où vous aviez déjà fait des livres ou comment, quand on est peintre, on devient d'un seul coup auteur d'un livre ? C'est quoi ? C'est des rencontres avec quelqu'un, avec un éditeur ? Ou c'était votre volonté à vous ?
C'était une démarche de l'éditeur au démarrage, parce que moi j'avais rencontré les éditions du Sablier, Hélène Bonis, avec un livre que j'avais fait précédemment, qui a été édité aux éditions de la CNTRP, et sur une petite fille qui était sans papier, qui s'est retrouvée au centre de rétention de Marseille, et j'avais envoyé j'ai démarché comme on démarche traditionnellement, et ça avait intéressé Hélène. Mais...
Hélène Bonis, on parle d'Hélène Bonis,
voilà,
du Sablier.
Hélène Bonis, pardon, et ça l'avait intéressé, mais moi, entre-temps, j'avais déjà fait un accord avec les éditions de la CNTRP. Donc,
d'accord.
Et on s'est rencontrés, et je lui ai amené, comme je travaille assez... je travaille, donc j'ai plein de livres en cours... je lui amenais à peu près tout ce que j'avais. Et voilà, ce livre Kanak l'a intéressé. Et à partir de là, on a repris à la fois l'histoire, l'écriture, les dessins. Et on a refait quelque chose de très différent de ce que j'avais fait pour ma petite fille. D'accord. Ça ne ressemble à part la base historique.
L'histoire quand même, la même. Oui.
Voilà. Le reste, ça s'est beaucoup enrichi. En tout cas, ça s'est beaucoup transformé.
D'accord. Et si on écoutait un petit peu d'un autre morceau de cette musique. Alors, il y a du chant, hein, ben, il n'y a pas seulement de la musique, il y a une voix, hein, avec un chanteur qui s'appelle Samuel
Gromido.
Voilà.
Qui n'est pas vraiment un chanteur, qui est un. C'est un homme qui chante.
Un homme qui chante. Et c'est quoi alors la différence, hein?
C'est-à-dire que c'est plutôt quelqu'un qui.
Mais c'est un Kanak.
Qui perpétue la tradition du récit de sa tribu, puisqu'ils sont organisés en tribu, et en perpétuant, ils le perpétuent par ce chant-là.
D'accord. Ben on écoute alors les chants Aïe Aïe, ça, c'est la 2. Donc ça, c'est donc on vient d'en parler, des chants aïe aïe. Donc, mais il y a des paroles là-dedans ou c'est que des onomatopées, il explique des choses. Donc c'est un homme qui chante et c'est quelqu'un qui raconte des histoires, qui transmet, qui
raconte des chemins. En fait, ce qui est très étonnant, et je crois que c'est ce qui m'a touchée dans les récits de la Nouvelle-Calédonie, c'est que les esprits, les anciens, ceux qui sont morts, toutes ces personnes-là sont présentes dans le présent, en fait. Ils sont à la fois dans le passé, il y a des... Comme ça, des... C'est pas comme chez nous, très délimité. Bon, c'est un tout. Et en fait, c'est ce qui m'intéressait. C'est par exemple, si on prend la page, quand elle s'endort et qu'elle va rentrer dans le monde de la légende, la petite Farah, parce qu'elle a mal aux dents, donc elle va s'endormir dans les racines du bagnon. Et là, elle va rentrer dans sa propre histoire, dans l'histoire de son pays, de sa terre natale. Et elle va rencontrer ces esprits qui sont c'est des sculptures qu'on peut voir sur la page centrale, là où elle dort.
Oui, oui. Les auditeurs ne peuvent pas voir le livre. Mais
non, ils ne peuvent pas voir le livre.
Voilà, c'est la double page centrale où on a la jeune fille qui est couchée. On voit qu'elle s'endort et il y a effectivement des sculptures.
Voilà. Et en fait, ces personnages-là, ce sont des personnages qui seront sculptés devant les portes, comment ça s'appelle, devant les montants des portes,
oui.
Qui sont les deux personnages qui représentent l'homme et la femme et qui qui protègent, à la fois protègent et surtout sont là, quoi, sont là pour regarder la cohésion. Et j'ai beaucoup aimé l'interaction entre l'histoire, la légende, aujourd'hui, hier, demain. Oui. Tout ça est très, très étonnant pour nous qui sommes tellement cartésiens. Et je crois que c'est ce qui m'a touché beaucoup dans cette histoire-là aussi, quoi.
Bon, alors c'est à la fois un livre qui était destiné à votre petite fille. Donc l'idée, c'était quand vous avez découvert ça, c'est de faire partager ça à des enfants d'ici. Bon, c'est un livre qui va être vendu en Nouvelle-Calédonie, mais aussi ici. C'est pour faire partager à des enfants aussi d'ici, européens, la compréhension de ce qui peut se passer ailleurs. C'était aussi cette idée de montrer que les choses peuvent être différentes ailleurs.
Oui, c'est ça. Montrer qu'à la fois elles sont différentes et à la fois elles sont très proches, puisque finalement elle a mal aux dents, elle perd ses dents, oui, exactement comme moi, petit européen en France, j'ai mal aux dents et je perds mes dents. Mmh. Et de la même façon, cette petite fille-là, elle a un problème pour grandir. Elle n'a pas, comme tous les enfants, il y a un moment donné, on descend des genoux de la maman et c'est un peu difficile, elle est affrontée le monde. Et elle affronte le vent, elle affronte son histoire, qui est une histoire énorme et tout ça. Mais finalement, est-ce que tous les enfants ne sont pas confrontés à leur propre histoire? Peut-être qu'il est des pays dans lesquels on apporte plus d'attention à l'histoire, à l'histoire de la Terre. Mais enfin, nous qui sommes provençaux, par exemple, on sait combien. J'ai été touchée hier, j'ai rencontré ma cadette de petite fille, Ida, et elle apprend à l'école des chansons, elle les apprend en français et en provençal. Mmh. Et ça m'a étonnée et touchée, parce que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui, du coup, se repasse dans l'idée de, voilà, qu'est-ce que c'est, où on est, où on habite, qu'est-ce que c'est qui nous construit. Et tout ce monde-là, hein, tous ces petits bouts-là, il faudrait qu'on arrive à les mettre ensemble, quoi. Mmh. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire.
D'accord. Donc, il y a aussi, c'est un livre aussi, et bon, tant que c'est un livre pour la jeunesse à partir de 5 ans, mais c'est un livre aussi avec une volonté de faire bouger les choses, pas éducative, mais de faire aussi, de que ça concerne, on peut s'identifier à cette petite fille, même si on est un enfant de Provence.
Voilà, c'est ça.
Parce qu'on a, comme vous me dites, on perd ses dents, on a les mêmes difficultés, mais en même temps, on découvre un monde différent. Alors, on découvre aussi, parce qu'il y a les chants, il y a la musique avec ce disque, mais il y a aussi les images, la couleur. Ce livre est très coloré, c'est très beau, et voilà, et on découvre, j'irais, un monde coloré un petit peu différent du nôtre, même si on a beaucoup de couleurs en Provence.
Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que, je crois que la couleur est... C'est, pour moi, la couleur, c'est un peu la vie, quoi. C'est un peu... c'est peut-être mon approche de peintre, mais j'aime beaucoup travailler, par exemple, l'aquarelle et l'encre. Bon, je peins aussi des tableaux, mais j'aime beaucoup ça parce que je trouve que les choses s'animent à partir du moment où la couleur arrive. Et voilà, c'est... Et puis j'aime bien aussi la sensation qu'on peut toucher un livre et presque on peut peut-être toucher à la fois les matières et à la fois peut-être toucher aussi la couleur... Et rentrer dedans par... ça touche un peu tous les sens, quoi. Et voilà, pour moi, c'était important. Mais je crois que, fondamentalement, ce que j'aimerais qu'on garde, ça va être un peu bateau de le dire comme ça, mais c'est qu'on fait tous partie de la même terre et qu'on est tous très différents. Et que c'est une joie et un bonheur. Et c'est notre grande richesse d'être tous des êtres différents, avec des histoires différentes, mais d'être tous des êtres humains, finalement.
Oui, non, mais je veux dire, on est presque jaloux, parce que moi, je trouve que c'est quand même assez génial de descendre d'une dent que lui, il a perdue, parce que, je veux dire, ça donne... Non, mais je veux dire, ça fait envie, quoi. Parce que, bon, descendre du singe, ça va, mais je veux dire, j'aime bien les singes, mais descendre d'une dent de la lune, je trouve que c'est assez... Ouais. Je veux dire, c'est une espèce de cadeau, on aurait bien aimé être comme ça. Ouais. Donc c'est un peuple qui a de la chance. Bon, les autres, ils ont aussi des légendes et des histoires. Ouais. Voilà. On va peut-être écouter encore un petit peu de musique. Alors, après, on a quoi? La musique du banyan. Et qu'est-ce que c'est qu'un banyan, alors?
C'est un arbre.
Un arbre, d'accord.
C'est un arbre énorme avec des énormes racines.
D'accord.
Mais en fait, il y a un arbre qui est très important là-bas, c'est le filao. parce que le filaou, il est d'ailleurs à la dernière page, c'est lui qui est. C'est, le filaou, c'est un arbre qui a des espèces de feuilles un peu comme des lianes. Et quand et le vent souffle dedans, il emmène la parole avec lui.
D'accord. C'est mais ça, c'était les chants Aïe, Aïe, musique du filaou.
Voilà. Hein, c'est, oui. Et c'est vraiment, voilà, la musique du filaou, c'est vraiment lui qui chante et qui. C'est l'arbre chantant.
L'arbre chantant. Ouais. Mais pas, parce que c'est le vent qui le fait chanter.
Voilà, c'est le vent qui le fait chanter. Mmh. C'est comme, vous savez, dans une. C'est, je pense que c'est une, un récit de Jean Giono qui est magnifique sur un homme qui achète un peuplier
oui.
pour planter devant chez lui, pour que ça remplace la fontaine qui ne coule pas, mais mmh. quand le vent fait bouger les feuilles, la fontaine coule.
Oui, oui,
et
oui.
du coup, on est vraiment au même endroit, en fait.
D'accord. Donc là, on va écouter la musique d'un autre âme, la musique du Bagnon.
Aou aïe 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 aou aïe 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 aou 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 I know I
Alors, il y a beaucoup d'arbres dans cette histoire, parce qu'on a le filaou, on avait dit l'arbre qui chante, il y a le bagnon, ce grand arbre dont on vient de parler, et puis il y a le papayer. Alors, le papayer, c'est quoi ? C'est celui qui donne des papayes ?
Oui, le papayer, c'est un arbre qui, par rapport au bagnon, il est beaucoup moins magnifique. C'est un arbre qui donne des papayes, mais dont les racines ont peut-être la vertu, peut-être... s'étant jamais de soigner le mal dedans. Et c'est ce que va acquérir notre ami Farah sur sa route. Et c'est un papayer, c'est un peu comme, ça ressemble un peu à un énorme tomatier, en fait. Oui. On dit pas tomatier, mais ça fait des espèces de gros fruits verts. Voilà, ça fait passer sûr que c'est une végétation qui est radicalement différente de la nôtre, qui est, voilà, qui, le bagnon, il a des racines immenses et il a ces espèces d'arbres, de branches qui tombent et qui se font racines quand ça touche le sol. Mmh. Et le filaou, il a ces espèces de grands cheveux qui chantent. Voilà. C'est aussi une histoire de vent.
Oui, oui.
Peut-être c'est parce que je suis provençale aussi que c'est une histoire de vent.
Donc le vent est très présent dans ces arbres et c'est lui aussi qui fait chanter les arbres. Mmh. Si sans vent, il n'y a pas de chant. Alors, mais là, on est sur Terre avec les arbres, mais il y a aussi une présence importante, puisqu'on est dans une île, on a une présence de la mer, de l'océan. Mmh. Et donc, la petite Farah, elle va aussi plonger dans la mer, elle va aller voir ce qui se passe sous l'eau.
Elle va aller écouter, oui. En fait, elle va aller écouter un peu toutes les choses qui fabriquent son pays, qui sont constitutifs de son pays. Donc elle va effectivement plonger pour écouter ce que les coquillages peuvent lui raconter, ce qu'ils peuvent lui enseigner, puisque chaque élément, que ce soit les arbres, il y a aussi un peu les animaux, puisqu'il y a la poule sultane, les lézards qui sont toujours là. Je pense que dans chaque image, il y a un lézard, ou presque.
Oui, oui.
Et effectivement,
il y a les oiseaux, il y a les poissons papillons.
Voilà. Oui. Et quand elle, effectivement, elle va, en fait, elle va jeter une espèce de regard attentif sur tout son monde pour voir comment il est fabriqué et pour voir dans quoi elle est, quoi. Mmh.
Alors, oui, il y a les poules, il y a les lézards, il y a les oiseaux, il y a plein de choses dans ce livre. Et la mer en Nouvelle-Calédonie, l'océan, il a un rôle important pour eux, pour les habitants pour...
Oui, c'est une île, mais c'est une île, mais c'est une île qui est très grande, en
oui,
fait.
Oui,
hein,
qui est grande.
C'est pas comme les petites îles des Antilles ou les choses comme ça, quoi. C'est quand même... Mais oui, effectivement, c'est très important. C'est des gens qui sont peut-être des peuples aussi... Qui se déplacent aussi par la mer, qui vont pêcher, qui... Oui, c'est une...
Alors, elle rencontre tout ça, elle rencontre tous ces éléments, mais il y a aussi un petit garçon qui a un rôle important.
Là, on l'a... c'est une transformation. T'es un Kanaké, c'est un peu... C'est le fondateur. C'est le fondateur. C'est un peu comme... Voilà, c'est le fondateur. Là, on l'a incarné en petit garçon, puisque c'est une petite fille qui va le retrouver, et c'est elle, lui qui va l'amener sur le chemin. Je m'étais dit que c'est plus simple pour une petite fille de faire ce chemin-là avec un petit garçon avec qui elle arrivera plus à échanger que si c'était un monsieur qui serait peut-être plus intimidant et plus surplombant, puisqu'il est... Finalement, il est plus proche d'elle, puisqu'il a le même âge qu'elle, du coup... Ils peuvent partager peut-être les choses ensemble plus facilement. Mais c'est le vrai fond, c'est vraiment dans la légende Kanak, c'est vraiment le premier homme Kanak qui s'appelle Théan Kanaké. C'est lui.
Ouais. C'est celui qui descend de la dent.
Ouais, c'est lui qui descend.
Nous, on a eu Adam et ils ont la dent.
De ces êtres, de ces choses. Après, d'accord. Tout ça est voilà, mystérieux aussi.
Eh bien, on peut peut-être écouter... La musique de l'océan, Odile, si c'est possible. Donc, voilà. Après la musique du Banyan, la musique de l'océan.
Oui.
Jawab nanti pada.
Apparemment, ça, il rit beaucoup en plus, ce monsieur qui chante. Donc voilà, c'est, apparemment aussi, c'est des gens qui ont du plaisir à vivre en Nouvelle-Calédonie.
Sûrement, mais c'est des gens qui ont aussi une histoire très dure,
oui,
qui ne paraît pas dans mon livre, mais c'est une histoire très dure et très violente, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie.
Oui.
Mais c'est un, je pense, c'est aussi un peuple qui est resté très, très, enfin, en tout cas, qui a une grande volonté de rester très conscient de ce qu'il est. Mmh. Et voilà. Et de pas se perdre sur des tas de chemins un peu compliqués. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais dans ce livre et qui donc a ce disque qui va avec, dans laquelle l'histoire est racontée.
Oui, l'histoire est racontée en même temps. On peut donc l'écouter, la lire et écouter les musiques.
Voilà. Et il y a aussi, elle est racontée et elle est sonorisée.
Mmh.
Et on n'a pas parlé des sons donc que mon compagnon nous a donné. Qui sont les sons de là-bas, les sons des oiseaux, les sons du vent, de la mer, des grillons, des gens. Bon, là, par exemple, dans ce qu'on vient entendre, on entend qu'il y a des gens autour,
parce que
c'est du son qui était pris comme ça, dans une réunion où il y a des personnes un peu partout, et puis lui chante, et puis on entend les gens qui parlent. Et enfin, moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'était de rendre aussi la présence du reste de la population d'une façon vraiment vivante, comme ça, par aussi tous ces petits côtés où on les entend qui causent sur la musique, ce dont on n'a pas vraiment l'habitude. En général, la musique, c'est dans le silence, on entend juste le chanteur ou le musicien. Et j'aimais bien que, voilà, il y a tout ce qui est autour, quoi. Tout ça, c'est... Voilà.
Oui, c'est une musique qui est dans la vie, quoi. Mmh. Alors justement, bon, on parlait de ça, on a une histoire commune qui est malheureuse avec... Je ne sais pas si beaucoup de... Alors, les enfants ne s'en rappelleront pas, mais nous qui sommes un peu plus âgés, on a quand même des événements assez difficiles avec le peuple kanak qui a souhaité avoir son autonomie, son indépendance. Et donc, effectivement, on a, avec la France, il y a eu une histoire assez terrible, quoi.
Oui, une histoire très violente. Mais là où ils en sont, normalement, ils sont autodéterminés, avec un gouvernement indépendant, avec deux régions. Là. Mais de ce que je sais, c'est qu'ils gardent de la trace historique. C'est un pays qui est un peu coupé en deux. Il n'y a pas beaucoup de porosité entre les Kanaks qui sont au nord et les Blancs qui sont au sud, quoi. C'est des relations assez difficiles.
Toujours. Oui, alors dans le livre, on trouve une carte dans laquelle on découvre qu'il y a trois provinces. Il y a la province nord, il y a la province sud, et puis il y a la province des îles, qui sont des îles qui sont assez loin à l'est de cette grande île, qui est comme une espèce de I penché. Voilà. Donc, effectivement, on découvre aussi cette géographie. Donc, on aurait plutôt les Blancs qui occupent le sud, et les Kanaks qui seraient plus au nord.
En province nord, oui.
En province sud.
Bon, après, bien sûr, il y a des Kanaks aussi en province sud, et il y a tout petit peu des Blancs, mais dans l'équilibre, c'est vraiment ça. Et la province des îles, je crois que c'est très à part, parce qu'ils ont... C'est à part, je crois que la colonisation ne s'est pas passée de la même façon, et la décolonisation non plus. Et du coup, c'est beaucoup plus apaisé, quoi. Elle est vraiment là où il y a eu les heurts qu'on connaît et tout ça, et les volontés indépendantistes, elles viennent vraiment de la grande île, quoi. Ce qui nous intéressait aussi, c'est bon, parce que ce qui est bien, je trouve, dans la collection qu'avait fait à cette époque-là Hélène Bonis du Sablier, c'est qu'il y avait tout le rapport avec la géographie. C'est où on est, où nous sommes et où ils sont. Donc c'est pour ça qu'il y a une carte de géographie à la fin de chaque livre qu'elle avait édité, dont la nôtre. Parce qu'on voit que... ce que peut-être on peut regretter, c'est qu'on ne voit pas combien ils sont loin de nous, parce que...
Mais on a déjà là tout l'océan Pacifique. Hein. On voit qu'on est donc complètement à l'est de l'Australie, hein, dans la partie sud de l'océan Pacifique. Et on voit l'Asie en haut avec la Chine et le Japon. Donc on est bien en dessous de ça. Mais on arrive à se situer pour peu qu'on connaisse un peu l'océan Pacifique. Oui, on aurait pu avoir
un globe
globe entier. Mais bon, ça, ça demande aussi, de la part... C'est un livre aussi pour les parents ou les grands-parents ou les éducateurs d'aller montrer... Mais déjà, il y a ces deux cartes. Une carte de la Nouvelle-Calédonie et une carte de l'océan Pacifique qui permet de se situer. Voilà. Oui, c'est vrai que j'entendais assez récemment, parce que c'est récent l'autodétermination et l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, il y a un problème d'élection, c'est-à-dire que dans les accords, il avait été demandé que pour que ceux qui sont venus d'ailleurs, les Blancs souvent, puissent voter, il fallait qu'ils soient là depuis suffisamment longtemps. Parce que sinon, on a effectivement un envahissement de gens qui, d'un seul coup, prennent le pouvoir parce qu'ils sont devenus nombreux. Or, ils ne peuvent voter que s'ils sont là depuis un certain nombre d'années seulement.
Oui. Ils ont gelé le corps électoral.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il y a eu une politique dans les années juste après les événements d'Ouvéa et tout ça, une politique qui a un nom que je trouve qui est assez terrible, mais assez imagé, qui s'appelle Planter du Blanc. Oui. On a effectivement fait inciter beaucoup les Français blancs à aller vivre en Nouvelle-Calédonie pour effectivement compenser le manque de population.
Alors, on écoute encore un petit peu de musique, une musique de la canopée. Alors là, on est au-dessus des arbres, la partie supérieure des arbres. C'était la musique de la canopée. C'est un morceau qui est un peu plus long que les autres, puisqu'il dure 5 minutes. Mais bon, c'est intéressant de découvrir ces musiques, parce qu'effectivement, on est transporté jusque là-bas. On parlait de géographie, de vent, de mer, d'arbres, de végétation complètement différente. Et c'est un livre qui, à la fois, qui peut être écouté pour puisqu'il est raconté par Aude Balmigère. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont intervenus dans ce livre, hein, qui ont apporté leur contribution. Il y a quelqu'un qui travaillait sur les cartes, donc Clément Boutrin qui a fait le travail de géographe. Hein. Mmh. Et puis il y a Olivier Bozat qui a retouché le travail d'illustration, de peinture que vous aviez fait. Et puis il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui font de la musique, il y a beaucoup de... C'est vraiment un travail collectif. Et après, bon, il reste le travail à faire de la part des parents d'aller expliquer l'histoire éventuellement de la Nouvelle-Calédonie, la géographie, etc. Donc c'est un très beau livre disque. Et après ça, vous êtes mis à écrire avec, il y a eu d'autres occasions, parce que on a parlé tout à l'heure d'une petite fille sans papier qui était dans le centre de rétention de Marseille. Oui. Là, on est chez le peuple kanak. Il y a d'autres choses sur lesquelles vous travaillez?
Oui, je continue à écrire. J'ai écrit plusieurs livres et dessiné de la même façon.
Toujours les deux à la fois?
Oui, ça vient ensemble. Les deux à la fois. Et alors en général, c'est avec, c'est souvent des récits. Bon, l'histoire de Lily, la petite fille sans papier, c'est une histoire que j'ai vécue. C'est une histoire vécue. Donc là, c'est pas un récit qu'on m'a rapporté, parce que c'est l'histoire de la première petite fille qui a été mise dans le centre de rétention de Marseille à 8 ans. Elle était à 6 ans. 8 ans. Elle avait le même âge que ma première petite fille à moi. Et je me suis dit comme on militait avec RESF, avec mon compagnon, on est allé à la maison de rétention, tout ça. Donc on a vécu toute cette histoire-là. Et je me suis dit que c'était pas possible de pas le raconter. Et de pas le raconter à ma petite fille qui avait le même âge. Donc j'ai dessiné ce livre et voilà, il a été édité. Mais en général, mes livres sont à partir de récits qu'on me rapporte. J'aime bien que des gens me racontent des histoires et
Ça fait venir des images,
Angèle ? Ça me touche, voilà.
Oui, quand elle vous touche, ça fait venir des images ?
Oui, oui. Alors, là, par exemple, il y a un livre qui s'appelle « Les cornichons » que j'ai fait à partir d'une histoire d'enfance d'une amie à moi qu'elle m'a racontée, que j'ai trouvée à la fois très, très drôle et très éducative, parce que c'est une histoire toute simple d'une famille un peu nombreuse dont la tante était une dame très pleine de bons sentiments et qui, pour les aider, leur donnait de la nourriture, dont une fois elle donne à la maman des cornichons et elle vexe profondément cette maman-là parce qu'elle lui fait une espèce de don qui la choque. Et la maman amène ses enfants, rentre à la maison, il les amène à la bouche d'égout, elle leur dit « Maintenant, on va jeter tous les cornichons. » Et les enfants jettent les cornichons dans la bouche d'égout. Et ce qui est très drôle, c'est que cette amie qui m'a raconté cette histoire-là, d'abord, c'est une histoire qui est toujours... Elle doit avoir dans les 50 ans. Et c'est une histoire qui est toujours très présente pour elle. Et d'un autre côté, ça s'est reproduit dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle a une voisine qui, toutes les années, lui donne des prunes pour qu'elle fasse de la confiture de prunes. Mmh. Et elle jette les prunes, elle va acheter des pots de confiture, de prunes tout faits, et elle les porte à la dame pour lui dire « Voilà, j'ai fait avec vous. »
Elle change d'étiquette.
Et donc, cette histoire-là m'avait beaucoup plu, et je l'ai illustrée. Ça s'appelle « Les cornichons ». Et j'ai illustré à l'aquarelle. Et puis, j'en ai... un autre, c'est... C'est l'histoire de Rita, la mouette du pourquoi pas. C'est une histoire que je trouve très belle, parce que Rita, la mouette, est censée être le seul témoin du naufrage du pourquoi pas, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque je crois que c'est un cuisinier qui a été témoin également, a été sauvé. Et c'est une mouette qui s'est blessée, que le commandant Charcot a ramassé sur la mer, qu'il a mis à l'abri, et quand le bateau a sombré, il a libéré la cage et la mouette s'est envolée. Donc j'ai dessiné ça sur une... C'est un peu symbolique, c'est une jeune fille qui danse sur la mer, et avec le récit du naufrage, en fait, elle se fait... C'est la mouette Rita, mais c'est une jeune fille. Et ça finit par l'envolée de la mouette au-dessus de l'eau. Voilà. Je crois qu'il y a ça aussi, et puis bon, voilà.
Alors justement, ce que je voulais savoir, c'est quand on fait des livres, il y a des livres on fait des dessins et des livres, c'est pas forcément pour les enfants, parce que même ça, les chants canaques du papayer ou l'histoire du cornichon, est-ce qu'on a toujours tendance à faire des livres illustrés pour les enfants et pour les adultes, des livres plus austères sans dessin ? Est-ce que les légendes ou les histoires comme ça un peu... étonnantes ou marrantes sont toujours destinées à des enfants. Est-ce que c'est pas aussi pour les grands comme nous?
Si, j'espère. Oui. Mais de toute façon, les livres pour les enfants, c'est les grands qui les lisent. Et si les grands ne les aiment pas, ils peuvent pas les lire à leurs enfants. Les enfants vont s'ennuyer comme si on n'a pas, si on met pas un peu soi-même dedans. Donc, je crois que d'abord enfin, pour moi, en tout cas, quand j'écris aussi à la personne qui va lire le livre à l'enfant. Donc, je pense que c'est les deux. Mais bon, l'histoire de la mouette du pourquoi pas, et qui s'appelle Rita, je l'avais dessinée pour une petite nièce qui s'appelle Rita. Et quand elle l'a lue, elle m'a dit « Oh, ben dis donc, c'est pas rigolo. » Donc, effectivement, celui-là, je pense... Il n'est peut-être pas forcément pour les enfants, pas forcément.
Bon, de toute façon, je vois sur les livres pour la jeunesse, comme on dit, on met toujours l'âge, on met dès, par exemple celui-là, dès 5 ans. Mais on ne met pas la date limite, l'âge limite, c'est-à-dire ça peut aller très loin. Donc on va écouter un dernier morceau, Odile, de ce disque qui s'appelle « Musique de la légende de la Lune ». Et puis après, on dira où est-ce qu'on va pouvoir trouver ce livre et puis l'écouter et puis rencontrer Marie-Pierre.
Mmh.
Marie-Pierre Aiello qui a fait donc ce qui nous offre ce très beau livre Les Chants Kanaks du Papayer, hein, dont elle a fait à la fois l'écriture de l'histoire en reprenant la légende de la création du peuple Kanak en Nouvelle-Calédonie, mais aussi toutes les illustrations qui sont travaillées à partir de matières que ça soit du tissu, des plantes, des végétaux, du sable. Voilà, c'est très. Alors tout ça, on pourra aussi, si on veut en savoir plus, le retrouver le 29 janvier à la médiathèque de Sisteron, où vous allez exposer les planches, enfin les travaux originels, parce que sur le papier, dans un livre, bah, ça devient tout plat, hein. La robe, elle s'envole pas, et puis les plantes, elles ont pas de relief. Mais bon, c'est très bien fait, donc c'est très beau. Mais là, on pourra approcher la matière, etc. Donc, c'est important aussi de partager ça avec d'autres, l'origine des choses. Moi, ça m'a marqué d'entrée. Je me suis dit qu'il fallait qu'on le partage.
Bah oui, je trouve que c'est important aussi comment de voir que la fabrication d'un livre, c'est tout un chemin, quoi, aussi. Et oui, il y a le peintre qui réfléchit dans son atelier, qui met ses matières, et puis du coup, quand on peut exposer, comme c'est le cas là, les originaux, on revient en arrière, on revient avant la photogravure, et on revient dans un travail qui est presque le travail de la création elle-même, quoi. Oui. Donc voilà, pour moi, c'est important. Oui. Et c'est très joyeux pour moi de les montrer. Ça me fait
plaisir. Puis on est aussi dans la création de la vie, comme cette dent qui tombe de la lune et qui crée la vie sur cette île. Donc on a aussi comment on crée des matières. Donc alors ça sera l'occasion d'une soupe olive qui aura lieu le 29 janvier à la médiathèque de Sisteron. Donc on aura l'occasion de vous rencontrer à ce moment-là et de présenter justement ces illustrations, d'écouter les chansons, de peut-être de raconter l'histoire. Et puis ce que je voulais dire, c'est que ce livre, il a aussi une vie, puisqu'il a commencé à être préparé par Alain Bonis du Sablier. Et entre-temps, ben, le Sablier s'est éteint. Hein, la maison d'édition vient de disparaître. Mais par contre, Hélène est toujours là. Hélène donc a mené cette histoire jusqu'au bout. En changeant un peu son fusil d'épaule avec courage, voilà, et donc elle s'est rapprochée des éditions Parole, et donc il y a eu une espèce de continuité de vie comme ça, pour pas que un travail comme celui-ci se perde. Donc c'était aussi une volonté d'Hélène Bonis de faire que les choses aillent jusqu'à terme, et donc il y a eu une rencontre entre Hélène Bonis et les éditions Parole. Et donc, ce livre qui était bien avancé, il a pris vie à l'intérieur des éditions Parole. Voilà. Donc, il y a aussi toute cette transmission de coopération que je trouve intéressante dans la naissance de ce livre. Quoi. C'est un livre qui revient de loin en même temps.
Oui, c'est vraiment, pour moi, c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur parce que c'est effectivement beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup d'investissement personnel, affectif, individuel. Et puis, c'est beaucoup de gens qui se sont penchés dessus, qui ont travaillé avec. Et du coup, que ça existe, c'est vraiment inespéré et vraiment très, très heureux, quoi.
Oui, c'est vrai. Voilà, quand vous verrez le livre disque, c'est vrai qu'il y a plein de noms, il y a plein de gens qui ont apporté leurs compétences en musique, en dessin, en géographie, en beaucoup de choses. Et c'est un ouvrage collectif qui avait demandé beaucoup de travail, qui méritait donc de prendre vie, quoi, comme là-dedans qui tombe sur la terre de Nouvelle-Calédonie pour donner naissance à tout, à la vie là-bas. Etc. Donc, très beau livre. On en verra un peu plus donc à l'occasion de cette soupe aux livres qui aura lieu, donc, je le rappelle, à la médiathèque de Sisteron le 29 janvier à partir de 18h30. Donc, pour ceux qui connaissent le principe de la soupe aux livres, il s'agit donc de venir à une veillée au cours de laquelle chacun peut lire, dire, compter, raconter, chanter, peut-être chanter des chants kanak si vous les apprenez sur le disque avant de venir. Et donc on pourra rencontrer Marie-Pierre Aiello qui est l'auteur de ce très beau livre. Voilà. Est-ce qu'on dit autre chose? Est-ce que vous aviez quelque chose à dire sur le... Oui. Alors, quel est votre qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui? Bon, vous peignez, mais est-ce que vous avez envie aussi, ça donne envie de faire d'autres livres, sortir d'autres livres? Alors, vous en avez parlé de création. Est-ce que ça vous donne envie qu'ils prennent vie aussi?
Bien sûr. Ouais. Ça donne toujours envie. Et ça me donne envie, de continuer. Et puis... Ah, c'est tellement différent quand ça va rentrer dans le public, quoi. Donc, du coup, c'est à la fois c'est un côté un peu déchirant parce que on s'en sépare, c'est nos bébés, ils s'en vont. Je sais qu'au début, quand je vendais mes toiles, j'étais pas très contente, quoi. À la fois, j'étais contente, à la fois, elle me manquait. J'espère qu'il fera le tour du monde. Et puis, oui, après, ça me donne envie de continuer.
Oui, il va déjà aller à l'autre bout du monde, puisqu'il y a une partie de ces livres, presque une moitié des livres qui ont été fabriqués, qui prennent le bateau et qui vont arriver en Nouvelle-Calédonie, parce que ça met un peu de temps. Ils vont arriver mi-février. Oui, ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas par où passe le bateau, mais enfin, est-il que, c'est tout c'est tout le système de transport aujourd'hui. Tout va très vite et très lentement, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, il va arriver là-bas, en Nouvelle-Calédonie, et il embarque dans les jours qui viennent. Et puis, c'est des bateaux qui vont comme ça, tout doucement, en passant les caps des grands continents, et vont arriver en Nouvelle-Calédonie, début ou mi-février, je ne sais plus exactement la date. Ils vont se répandre auprès de nos amis Kanak. On va voir aussi comment ils vont le recevoir. Donc, il y a un diffuseur, effectivement, qui va le proposer aux librairies de la Nouvelle-Calédonie. Donc, s'il y a des gens de Nouvelle-Calédonie qui nous écoutent, je ne sais pas si Fréquence Mistral est écouté là-bas.
Enfin, ils peuvent le faire. Tout à fait, avec Internet, ils peuvent nous écouter.
Oui. De toute façon, on va en parler.
Parce que l'émission sera en ligne, bien sûr, donc sur le site.
Voilà. Donc tout le monde pourra entendre ça, et bien j'espère que ça leur donnera envie de continuer à retrouver ce livre et à rencontrer donc Marie-Pierre. Voilà, on a tout dit peut-être, non ou pas? Oui, vous vouliez dire autre chose, Marie-Pierre?
Oui, je crois qu'on a tout dit. Enfin.
Donc le mieux, c'est de le découvrir dans toutes les bonnes librairies. Mmh. Et puis, on aura l'occasion de continuer à dire ce qu'il en est, comment il vit, ce qu'en passent les gens de Nouvelle-Calédonie. Ils nous diront, on aura des retours, ça va être intéressant.
Et puis, il ne faut pas hésiter si vous avez envie, dans une école, de faire venir et le livre, éventuellement l'auteur, moi. Il ne faut pas hésiter. Moi, j'adore. J'ai fait une lecture de ce livre-là qui n'existait pas encore à la bibliothèque de l'Alcazar il y a 2 ans, au moment où ça devait paraître, et puis qu'il y a eu les problèmes du sablier. Et c'est un bonheur de travailler avec les enfants. Moi, j'adore ça parce qu'après, on décide ensemble. Ceux que ça intéresse, moi, je suis tout à fait disponible et partante pour faire le tour des écoles des Basses-Alpes.
Les bibliothèques.
Alors, justement, les coordonnées à laisser pour les auditeurs.
Les coordonnées, c'est les coordonnées de la maison d'édition.
Éditions Parole, on en parlera. Puis sur le site aussi, et par Fréquence Mistral, on pourra transmettre à Marie-Pierre. Hein. Donc, l'Alcazar, c'est une bibliothèque qui est à Marseille, mais à vocation régionale. On leur en reparlera. De toute façon, ils vont sûrement nous le demander, surtout si vous avez déjà fait une lecture là-bas. Voilà, donc, effectivement, c'est vraiment une histoire à raconter. Il peut y avoir des échanges dans les écoles, dans beaucoup d'endroits et toutes nos médiathèques, bibliothèques. Et donc, la première fois où on va pouvoir être en contact avec ce livre, on va le trouver rapidement dans les librairies, mais aussi... on a dit le 29 janvier à la médiathèque de Sisteron pour une soupe olive spéciale Kanak. Enfin, on parlera de plein d'autres choses, mais ça aussi. Voilà. Marie-Pierre, merci pour tout
merci
ça.
Merci à vous.
Hein, et puis,
merci bien de votre accueil.
Il n'y a pas de problème. Et puis, on va mettre un peu de musique, une petite coupure. Et puis, on se retrouvera après pour une partie, ce que j'appelle la partie pub, puisqu'on parlera... plus un petit peu des éditions Parole.
À tout de suite, on écoute Yael Naïm.
I walk until draw offs.